après ma boîte, je la fais beaucoup sous ce sujet, un topo. Alors moi, je suis toujours très anxieux quand je fais un coup pour la première fois. Après, ça devient rodé. Alors là, je vous demande d'emblée de ne pas tirer sur les pianistes parce que je fais un coup, après il a enregistré, après je réfléchis. C'est quand je fais un coup pour la sixième fois qu'il commence à devenir un peu humain. Alors là, vous allez un peu essuyer les plâtres, comme on dit, et je m'en excuse d'avance. Aussi bien quant au plan que quant à la profondeur. Quant à la profondeur, j'ai très peur en particulier que tout ce que je vous dirai là va vous paraître des évidences. Des choses très simples, très bêtes, ce qui n'est pas un reproche que je me fais. Je me souviens, il y a 20 ans, déjà ou 15 ans, j'ai commencé une petite psychothérapie avec une jeune fille de 14 ans qui était obèse. J'étais la seule obèse de ma vie. Et alors elle m'avait dit, au bout de 3 mois, elle a dit à sa mère, je me demande bien pourquoi aller chez Dr Tonkiewicz, il ne sait que dire des évidences. Je me suis dit, elle y allait pendant 2 ans encore. Elle est restée obèse quand même. Mais, alors, je vous ai fait un petit pêle-mêle là, pour vous dire un peu de quoi je veux parler. Mais là, il y a un petit plan que je vous propose, c'est un peu théorique. Ça sera la définition du pouvoir, les antinomies, les justifications, la division du concept de pouvoir et ensuite les différents pouvoirs que j'envisagerai un peu plus loin et je terminerai peut-être par les abus du pouvoir. Alors, et ça sera par principe un peu une tentative d'être général et puis avec quand même quelques exemples vécus pour mieux faire comprendre ma pensée. Et après, quand j'aurai fini, on pourra discuter, et puis j'espère qu'on pourra finir à 6h10. 6h10, c'est au moins 4, ok?
S'il te laisse partir.
Alors, si, il faut bien, parce qu'il y a ma fille qui m'a téléphoné vers vous, je crois, des embrouilles. Bon. Alors, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est agir. C'est agir sur autrui, soit dans le réel, soit dans l'imaginaire, agir sur sa vie concrète, agir sur ses rêves et ses sentiments, agir sur autrui en tant qu'individu, ou agir sur les autrui et les choses d'une manière globale. Une fois qu'on a donné cette définition du pouvoir, on peut voir quelles sont les deux antinomies du pouvoir, c'est-à-dire les choses que mettent toujours en avant les gens quand ils veulent contester un pouvoir, ce qui était quand même assez fréquent ces dernières années. Alors, on met toujours en contre-pouvoir, on parle de l'autonomie, des libertés, d'une part, et en ce qui nous concerne plus spécifiquement, c'est-à-dire les médecins ou les psys, on parle aussi de la fonction d'aide, de la fonction de soins, de la fonction d'accompagnement, comme en les présentant volontiers dans des débats comme fonction antinomique. Donc le pouvoir c'est vilain et le non-pouvoir c'est beau. Alors je vais vous dire tout de suite que c'est pas tout, à mon avis, c'est pas tout à fait vrai et je voudrais commencer par justifier le pouvoir. D'abord en France, je crois que c'est en France qu'on a eu cette idée au XVIIe siècle, mais je vous garantis pas l'auteur, il y a un proverbe qui dit « ce qui fait courir les hommes, ce sont 3 choses, l'argent, les femmes et le pouvoir ». Alors on peut ajouter que moins les femmes arrivent à nous faire courir, plus le pouvoir et l'argent arrivent à nous faire courir, mais selon les âges et les possibilités, il y a l'intrication de ces 3 facteurs. Eh bien, je crois que cette phrase, qui a, je ne sais pas par qui elle était dite, recouvre une certaine idée, non pas biologique, mais au moins culturelle, des sociétés judéo-chrétiennes occidentales et européennes. C'est-à-dire, comme il y a des fonctions primaires, des besoins primaires, la nourriture, la respiration et tout, eh bien, nous avons, depuis 5000 ans au moins, sinon plus, nous avons développé d'autres besoins, donc la richesse, le pouvoir, et, au lieu de dire les femmes, il vaut mieux dire aujourd'hui la sexualité, parce que, comme les femmes font courir les hommes, de la même manière, les hommes font courir les femmes, qui, elles aussi, ont droit au pouvoir et à l'argent. Donc on ne dira plus. Alors une fois quand on a dit ça, je vous dis que je ne suis pas mieux que les autres et que nous sommes tous, nous courons après le pouvoir et que la majorité des gens courent après le pouvoir et que ce n'est pas un mal intrinsèque pour moi en tout cas de courir après le pouvoir. Et que très souvent, ceux qui tapent contre le pouvoir se divisent en deux catégories. Un, c'est le style Machiavel. C'est le style, pas Machiavel, c'est l'autre, l'anti-Machiavel, Frédéric le Grand. Je ne sais pas si vous avez lu son petit bouquin qui s'appelle Anti-Machiavel, qui est un livre qui est tout plein de bonnes intentions, des gentillesses, des mignonneries. Le prince doit servir, il doit être gentil. Machiavel, c'est un affreux bonhomme et tout. Si vous comparez les deux livres, le Machiavel et l'anti-Machiavel, vous direz quel affreux bonhomme le premier, l'italien, quel type généreux, le prussien. Si vous comparez les biographies, vous verrez que Machiavel était un pauvre mec qui courait d'une cour à l'autre pour vendre ses services à bas prix à tel ou tel condottiere italien, alors que Frédéric de Prusse, c'est lui qui a construit la monarchie prussienne et le pouvoir, il le connaissait certainement mieux, il savait mieux s'en servir. Donc, première catégorie de gens qui tapent contre le pouvoir, c'est comme M. Frédéric de Prusse, il tape contre le pouvoir pour mieux l'exercer en fait. La deuxième catégorie qui tape contre le pouvoir, c'est ceux qui l'ont pas et qui envient les autres. Nous y reviendrons parce que c'est important dans l'épicie. Donc, je pense que le pouvoir est donc un besoin, un certain besoin culturel de l'homme, et il procure des plaisirs, au même titre que l'argent et que la sexualité, que la nourriture, etc. Eh bien, dans la mesure où c'est un plaisir, et dans la mesure où ce sont souvent les mêmes gens qui condamnent le pouvoir, ils sont tout à fait pour le plaisir, je vous dis tout de suite que je ne cherche pas à condamner le pouvoir. À côté de cette reconnaissance du pouvoir comme le plaisir, comme un plaisir et comme un certain besoin de l'homme, il est question aussi de rationalisation du pouvoir. Alors c'est là qu'on tombe un peu sur l'anti-Machiavel de Frédéric de Prusse. Le pouvoir, moi je m'en fous, c'est vraiment pour le bien des autres que je l'exerce. Pour le bien de mon peuple, pour le bien de mes malades, pour le bien de mes enfants, pour le bien de mes vieux parents. Bref, on rationalise le pouvoir. Alors c'est là que souvent on aura affaire à des mystifications et peut-être, si Dieu permet, je vous donnerai quelques exemples de ce type de mystifications. Pour résumer, je pense que dire « j'aime le pouvoir, c'est mon plaisir », c'est une certaine honnêteté, là où parfois, je ne dis pas toujours non plus, là où une certaine malhonnêteté, mystification commence, c'est lorsqu'on refuse de dire ouvertement qu'on a ce plaisir du pouvoir et lorsqu'on cherche à le rationaliser a posteriori en disant qu'il est fait pour le bien de tel et tel. Alors une fois quand je vous ai bien montré que je ne vais pas du tout parler de, que je ne vais pas du tout faire un topo pour dénoncer le pouvoir et pour dire que le pouvoir, c'est le cancer qui embête la psychologie, c'est la maladie des choses psy qu'il faudra extirper de notre pratique et de notre imaginaire, eh bien, on pourra peut-être aller plus loin et essayer de vous dire comment j'imagine, mais c'est très personnel et c'est peut-être complètement faux, et je pense que d'autres classifications sont tout aussi bonnes que la mienne, comment j'ai imaginé deux façons de classifier le pouvoir. Alors la première, elle est, et c'est sur celle-là que je bâtirai mon petit topo, la première, elle se fait en trois catégories. Je les ai appelées le pouvoir bureaucratique, le pouvoir théorique et le pouvoir charismatique. Et nous en discuterons beaucoup plus, ce n'est pas la peine de vous donner tout de suite les définitions. Et puis aussi la deuxième façon de les classifier, c'est le pouvoir que j'appelle donné par un tiers, et puis le pouvoir contractuel. Le pouvoir donné par un tiers, c'était son paradigme, son prototype le plus beau, c'était bien sûr le pouvoir de roi absolu qui était donné par la grâce de Dieu. C'était vraiment le tiers absolu, Dieu, la transcendance totale. Nous verrons que dans nos sociétés, ce pouvoir donné par un tiers, c'est le pouvoir donné par la société sur les autres, etc. Et puis la deuxième façon, la deuxième façon d'envisager le pouvoir, c'est le pouvoir contractuel. Alors c'est là que déjà des gens comme Locke, comme Rousseau, quand ils ont parlé d'aliénation, du contrat social, ils ont dit, dans une manière à mon avis très tirée par les cheveux, que le peuple a aliéné une partie de sa liberté en donnant le pouvoir au prince pour le gouverner pour son bien, et que c'était toujours un pouvoir contractuel. L'histoire montre que ce pouvoir contractuel se fait toujours à coups d'arcs, de flèches empoisonnées, de gourdins, des épées, des catapultes, et maintenant à coups des armes atomiques, et que le contrat y est pour peu de choses. Eh bien, chez nous, dans notre, en ce qui nous concerne, cette division en pouvoir donné par les tiers et le pouvoir donné contractuel, il y a un petit peu, elle recouvre un petit peu, mais pas complètement, la division que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir bureaucratique et le pouvoir charismatique, et théorique si vous voulez. C'est évident que c'est le pouvoir bureaucratique, j'y arrive maintenant, qui est un pouvoir donné par les tiers. Et il existe beaucoup dans la chose psy, alors que le pouvoir contractuel se retrouvera plus dans un contrat duel, et il sera plus proche d'un certain pouvoir charismatique. Alors voyons maintenant, après cette introduction très abstraite, commençons par discuter le pouvoir bureaucratique, celui que j'appelais bureaucratique. Là aussi, quand je dis bureaucratique, c'est un mot qui a une connotation mauvaise. Et si vous voulez faire ma psychanalyse plus tard, vous verrez que ce n'est pas par hasard que je donne une mauvaise connotation à ce mot. Mais toute réflexion faite, il n'est pas plus vilain qu'un autre. Et ceux d'entre vous que le mot bureaucratique choque, ils peuvent dire pouvoir administratif. Eh bien, il y a des gens pour qui ce pouvoir bureaucratique administratif est le seul but dans leur vie, leur seul mode d'existence, et ils le justifient, ils le rationalisent. Ces gens, ce sont les élus du peuple, bien sûr, parce qu'il y a toujours les élus du peuple ou de l'oligarchie, ce sont les administrateurs, il y a des études spéciales qui préparent à l'exercice du pouvoir dans un pays comme la France, où tout passe par l'école, c'est l'école des Sciences Po, un niveau de plus, c'est l'ENA, c'est les énarques, bref, ce sont des gens, des administrateurs, pour qui l'exercice du pouvoir, si j'ose dire, à l'état pur, est le seul but de leur vie, et pour eux, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous allons voir comment ça se présente chez les médecins, et plus particulièrement chez les psys. Eh bien, c'est sûr que ce pouvoir, lorsque les gens sont faits pour le pouvoir, qu'ils soient flics, ingénieurs, ministres ou patron de commerce et industrie, nous trouvons ce pouvoir normal. Or, chez nous autres, médecins, et les psys sont des médecins, pas tous, nous allons les voir tout à l'heure, psychiatres, disons, ce pouvoir bureaucratique administratif existe, et il existe avant tout dans un monde institutionnel. Il peut exister, peut-on dire, à la fois en gros et en petit. En gros, c'est-à-dire agir sur les événements en général, et au détail, c'est agir sur telle ou telle personne, sur telle ou telle catégorie de personnes, sur telle ou telle communauté. Alors commençons tout de suite par un exemple. Je sais que l'entérie l'orale fera 10 fois mieux que moi, ce qui me permettra d'être beaucoup plus court, mais un premier exemple des contacts des psys avec le pouvoir bureaucratique au niveau macroscopique, global, de tous les pays, c'est la loi de 1838. Ceux d'entre vous qui auront la patience de lire le compte-rendu qui occupe 2 petits volumes des débats qui, à la Chambre des députés, ont précédé le vote de la loi de 1838, ils verront des choses absolument passionnantes. Ils verront ici 2 catégories d'hommes de pouvoir qui s'allient contre une 3e catégorie pour obtenir la loi. Il s'agissait de savoir qui a droit de foutre quelqu'un dans le, à l'hôpital psychiatrique. Ça ne s'appelait pas encore hôpital psychiatrique, disons, qui a droit d'enlever la liberté de boucler quelqu'un qui est seulement présumé dangereux et qui n'a encore commis aucune mauvaise action. Vous savez très bien que dans l'Ancien Régime, c'était soi-disant le roi. C'était le fameux lettre de cachot. Une des premières conquêtes de la Révolution française, une conquête bien pauvre parce qu'elle n'a duré que 6 mois, était la suppression de ces lettres de cachot. Et puis on s'est aperçu que sans lettre de cachot, on ne peut pas vivre, la société ne tient pas debout. Il faut bien boucler les fils prodigues, il faut bien boucler les ivrognes agressives, il faut bien boucler les dilapidateurs de fortune, il faut bien boucler un tas de gens. La Révolution était quand même une bonne révolution bourgeoise. Et sans ces lettres de cachot, le pays s'est trouvé en état d'anomie, d'anarchie. Alors on a envoyé quelques-uns à la guillotine, mais c'est un autre problème. Mais il fallait retrouver un état de droit. On a mis 40 ans pour le retrouver, mais il s'agit de savoir qui. Alors, dans l'esprit de la Révolution française, il paraîtrait normal que ce soit la justice, que ce pouvoir devrait aller au juge. C'est le juge qui condamne quelqu'un qui a fait du mal à telle ou telle peine de prison. Ce serait donc normal que ce soit le juge qui décide, peut-être aidé par un expert médical, qu'il faut mettre quelqu'un dans une forme de prison qui était l'hospice, et l'hospice, l'hôpital, ça s'appelait asile. Voilà le mot, je cherchais le mot, dans, à l'asile, alors que c'est quelqu'un n'a encore rien commis du tout, mais il est seulement susceptible de commettre quelque chose. Mais contre cette idée-là, qui marche d'ailleurs dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, les faux français, ça ne plaisait pas beaucoup. Et une partie des députés était contre parce qu'elle disait que la justice est trop lente, trop paresseuse, trop lambineuse, et qu'elle est aussi trop indépendante du vrai pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir royal de Louis-Philippe, du pouvoir d'État. Et alors là-dessus, la bagarre s'était faite entre la justice et les ministres de l'Intérieur, l'administration, qui voulait que ce soit les flics qui puissent boucler les gens, les flics, les maires aussi, les élus des communes, bref, le pouvoir administratif. Et là, les psychiatres ont apporté leur pierre à la défense de la thèse de l'administration contre la thèse des partisans du pouvoir judiciaire, et ça se résume par un merveilleux discours du ministre de l'Intérieur de l'époque, je ne me souviens plus son nom, qui, avec le style propre à la première moitié du 19e siècle, a bien exprimé les choses. Il a dit, pardonnez, je ne le connais pas par cœur, mais c'est en bref, en substance, il a dit, admirez comment le Seigneur a bien fait les choses et comment les besoins du pauvre malade, représentés par M. Esquirol et nos idoctes médecins psychiatres, et les besoins de l'ordre public que je représente modestement, moi, ministre de l'Intérieur, comment, grâce à la bonté divine, ces besoins sont parfaitement harmonieux et ils vont ensemble. D'une part, pour l'ordre public, plus vite on boucle quelqu'un, plus l'ordre public est assuré. Donc, et d'autre part, vu que ce sont des malades, comme Esquirol nous a appris, et qu'on sait qu'en médecine, prévenir vaut mieux que guérir, eh bien, plus vite on les boucle, plus on permettra la guérison, parce que dans ces asiles, bien entendu, ils vont être soignés. Et c'était donc la conjonction de l'ordre public et d'une rationalisation des soins qui a permis, au bout des 18 mois de débat, c'était quand même pas, ça ne s'est pas passé tout seul, d'éliminer le pouvoir judiciaire et donner le pouvoir de boucler les gens à deux catégories de personnes, les médecins, pas forcément les psychiatres d'ailleurs, mais c'était surtout les psychiatres qui les maintenaient, les médecins avec les fameux certificats, et puis le pouvoir administratif, tantôt les policiers, tantôt les maires. Et puis après, alors là c'était bien, moi je vois pas, je suis pas contre, là les psys se sont posés comme pouvoir de boucler les gens pour les soigner et pour sauvegarder leur public. Quand après les choses sont allées mal, là, la deuxième moitié du 19e siècle, quand ça allait de plus en plus mal, quand ces asiles ont montré de plus en plus qu'ils n'avaient pas tellement la fonction soignante, eh bien là, nos psychiatres commençaient à pleurer. à pleurer, pas tous bien sûr, ils commençaient à pleurer en disant que ça va pas, c'est malade à l'hôpital psychiatrique, c'est dégueulasse. Mais c'est rare qu'ils aient dit que c'est nous qui les avons bouclés, et c'est, ils ont dit plutôt que c'est les autres. Et alors là, pendant toute la révolution psychiatrique, pendant, et même avant, à la fin du 19e siècle, on trouve toujours des psychiatres contestataires, mais l'Antonio Laura vous le dira beaucoup mieux que moi, qui disent « c'est pas nous les pauvres qui avons le pouvoir, c'est les autres qui les bouclent, c'est les autres qui nous donnent pas assez de crédit, c'est les autres qui les maintiennent dans cette promiscuité infâme, c'est les pouvoirs publics, et nous on est pour les malades, et eux ils sont pour les... Et eux ils sont pour les pouvoirs, nous on n'est pas pour les pouvoirs. » J'avais écrit là-dessus un petit papier qui a été publié dans 10-18, je l'ai écrit dans la foulée de mai 68 bien sûr, et qui s'appelait « La schizophrénie du psychiatre de gauche ». C'était toujours des gens qui avaient, toujours dans leur discours était très profondément anti-pouvoir, il était très profondément autonomie et soins, alors que quand on les voyait dans la pratique, quand on les retrouvait dans leur asile, on les retrouvait dans leur hôpital, eh bien, il n'y avait pas tellement de différence entre eux et puis des psychiatres qui ne se disaient pas de gauche. C'est là que je pensais qu'il y a un peu de schizophrénie là-dedans, et un décalage entre le discours et la pratique. Voyons un autre exemple, 130 ans après, c'est mai 68. En mai 68, nous avons assisté à une très violente lutte pour le pouvoir, où la chose psy était objet de ce pouvoir d'une manière toujours macroscopique. Eh bien, il y avait deux grandes catégories, et puis une troisième qui faisait un peu les petits roquets, les petits chiens qui aboient, la mouche du coche, ou les tiers-états, appelez-les comme vous voulez. Alors, les deux grands qui se battaient pour le pouvoir, c'était les psychiatres du cadre et les psychiatres hospitalo-universitaires. Les rationalisations étaient merveilleuses. Pour les hospitalo-universitaires, c'était des rationalisations théoriques sur lesquelles nous reviendrons. Les psychismes, ça relève du cerveau, donc c'est normal que la neurologie soit sœur jumelle de la psychiatrie. Si on abandonne la chose psy, si on la fait sortir du pouvoir médical les nôtres, Dieu sait où on ira, ce ne seront plus des malades mais des pauvres prisonniers, donc il faut qu'on la garde. Et puis il n'y a que nous qui faisons la bonne médecine, c'est nous qui avons fait des concours très difficiles, c'est donc normal que c'est nous qui gardons le pouvoir de nommer les gens, le pouvoir de gagner plus d'argent, le pouvoir de former les étudiants. Les asiles, ce sont des choses absolument crotteuses, ignobles, infâmes, tout le monde les sait. C'est donc pas à ces gens-là de donner un pouvoir formateur quelconque. Par contre, les psychiatres du cadre, ben, ils avaient un langage exactement l'inverse. Vous le trouverez décrit d'une manière merveilleuse, avec vivacité et la vigueur qui caractérisait notre maître Henriet, dans le fameux livre blanc de la psychiatrie française 1966-67, où ces psychiatres ont dit « c'est une véritable honte, il faut une seule psychiatrie et pas deux, les hôpitaux universitaires font une psychiatrie de luxe, nous on fait la psychiatrie populaire, les psychiatres universitaires connaissent rien à la psychiatrie, ils connaissent que la, que la neurologie, il n'y a que nous qui connaissons la psychiatrie, c'est une véritable honte que nous qui de toute notre vie sommes psychiatres, nous sommes les seuls à ne pas avoir la qualification de psychiatre donnée par les ministères. C'est une véritable honte que nous seuls qui avons les 120 000 malades psychiatriques de France, nous ne participions pas à la formation. » Alors la bagarre était féroce, il y avait un ministre qui était là-dedans, les ministres avaient une fille qui était dans un camp, un autre ministre avait un fils qui était dans un autre camp. Bref, la bataille a fait rage, et puis il y avait un troisième corps tout petit, mignon, qui faisait la mouche du coche, et qui était surtout composé de femmes, mais c'est normal dans notre société, c'était le corps des psychologues, qui disait, mon Dieu, c'est une véritable honte de laisser le pouvoir uniquement à tous ces vilains médecins, vu que c'est une chose psy, les études médicales, ça y prépare guerre, nous on en sait largement autant qu'eux, et c'est vraiment honteux qu'on ne nous donne pas de pouvoir. Il y a une thèse là-dessus passionnante en médecine, ça m'a, j'étais du jury des thèses, ça m'a remis 16 ans en arrière, mais Claude Veil se rappelle ce temps-là sûrement beaucoup mieux que moi. C'était très très beau quand on voyait les mêmes psychiatres du cadre se comporter comme des révolutionnaires, se comporter comme des gens qui contestent un pouvoir établi au nom d'une idée, au nom du bien commun, comment il s'est comporté lorsqu'il luttait contre les hôpitaux universitaires et comment il renvoyait les mêmes arguments que les hôpitaux universitaires leur renvoyaient, il les renvoyait à ce troisième petit corps qui était le corps des psychologues. Comme résultat, vous les connaissez, la bataille était complètement, quasi complètement gagnée par les psychiatres du cadre. Ils l'ont gagnée 100% contre les psychologues qui n'ont eu rien de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le droit de signer les feuilles de sécurité sociale, ils n'ont pas eu les, et ils n'ont pas eu droit au salaire aussi élevé. Ils l'ont gagné en partie contre les hôpitaux universitaires, premièrement en doublant leur salaire, ce qui était quand même important. Il n'y a eu que deux catégories de population qui ont eu un gain de salaire aussi important en mai 68, c'était les smigards et les médecins des hôpitaux psychiatriques. Pour tous les autres accords de Grenelle, les augmentations étaient infiniment plus modestes et qui se sont bien effritées avec l'augmentation des prix, alors que l'augmentation, celle-là, elle est restée quand même valable pendant des années. Deuxièmement, il y a quelques-uns parmi les plus pugnaces parmi eux ont reçu le titre de professeur agrégé, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans les sérails des hôpitaux universitaires pour en participer de leur pouvoir. Ça, c'était donc une bataille que je trouve parfaitement légitime de tous les côtés. D'ailleurs, ce n'est pas à moi de dire qui avait tort, qui avait raison. Ou, ce qui est important, que c'était une bataille pour un pouvoir bureaucratique menée toujours au nom de rationalisation théorique entre trois catégories de psy, dont les uns s'appelaient neuropsychiatres, les autres s'appelaient psychiatres tout court, et le troisième s'appelait les psychologues. Le temps me manque, bien sûr, pour vous donner les détails savoureux de cette bataille, mais ça, je vous renvoie à la thèse de médecine, je ne me rappelle plus son nom. La même bataille, on la voit tout le temps dans chaque institution. Parce que là, jusque-là, j'étais historique, soyons un peu quotidiens, mais voyons les choses comme elles se passent. Dans une institution, la même bataille continue pratiquement tout le temps. Ce n'est plus la bataille entre les HU et les psychiatres, mais c'est la bataille entre les psychiatres et les psychologues. Elle continue pour le pouvoir, elle continue le pouvoir sur un malade, elle continue sur le pouvoir sur les femmes. Eh bien, parlons-en un peu de ces institutions, et je vous fais grâce du pouvoir que les psys exercent dans l'université, c'est-à-dire le pouvoir de former les étudiants, de donner les notes, de considérer qu'un tel est digne de d'être psy, qu'un tel n'est pas digne d'être psy, ça aussi c'était contesté en mai 68, mais il fallait bien quand même que quelqu'un décide, parce que si on s'auto-décidait, ça ne serait pas mieux. Et vous savez très bien que... Bon, passons. Alors, donc, il y a là une question de pouvoir, il y a le pouvoir, là, dans les institutions, sous les personnels, le pouvoir sous les horaires du personnel, le pouvoir sous les congés, le pouvoir sous les plannings, le pouvoir sous les tâches, et c'est toujours le médecin qui dit au psychologue « il faut faire ça et ça » et c'est rare qu'un psychologue puisse le dire au médecin. Il y a le pouvoir sur les familles, par exemple le droit des visites. Et je me souviens d'un ami psychiatre, ou quand je dis ami, ce n'est pas vrai, d'un psychiatre, disons, qui a trouvé ce truc assez génial, c'est qu'il interdisait toujours les visites et les congés aux familles qui les demandaient. Et qu'ils obligeaient à prendre leurs enfants en congé et en week-end aux familles qui le répugnaient. La rationalisation était claire, et pour lui, c'est la psychanalyse qui la lui a donnée. Les familles qui voulaient prendre leurs gosses au week-end, c'était des familles hyperprotectrices qui avaient avec des gosses une relation fusionnelle et symbiotique. C'était donc à lui, le psychiatre, d'interdire cette relation, de la couper et d'interdire au maximum les visites et d'empêcher les gosses d'aller au week-end dans la famille. Par contre, les familles qui, pour une raison ou une autre, répugnaient à prendre leurs gosses en week-end, c'était des familles rejetantes, et son rôle de bon psychiatre, défenseur d'enfants, était de les rendre le moins rejetants possible en leur imposant de force les enfants. Là, vous voyez, c'est une utilisation bureaucratique et une rationalisation théorique d'un pouvoir qu'un psy exerce envers les parents. Elles, nous pourrons discuter après au nom des biens de qui il l'exerce. Notre pouvoir aussi, en dehors des dans les institutions, notre pouvoir est énorme, par exemple, dans les institutions qui s'appellent la Cotorep. La Cotorep, ce sont des psys en général qui décident si un tel ou un tel a droit au statut de travailleur handicapé, si un tel ou un tel a un taux d'invalidité supérieur à 80 ou inférieur à 80, ce qui fait qu'il aura ou qu'il n'aura pas d'argent. Eh bien, c'est un pouvoir extraordinaire que l'on a ici sur les gens, et ce pouvoir, il est utilisé d'une manière ou d'une autre, peu importe, ce qui est toujours intéressant, qu'il est toujours utilisé au nom d'une rationalité et d'une théorie quelconque. Par exemple, les gens qui donnent largement les invalidités, ils le font au nom d'un certain humanisme. Oh, les pauvres cons, il faut bien qu'ils vivent, on va, l'État, on s'en fout, moi je défends l'usager, je donne facilement la pension. Les autres diront, si je lui donne la pension, ça va lui enlever son autonomie, ça va le rendre assisté pour sa vie, moi mon but c'est rendre les gens autonomes, vaut mieux mourir debout que vivre à genoux, ça c'est appassionnant, il a dit pendant la guerre d'Espagne, et là-dessus certains psychiatres le traduisent, il vaut mieux crever autonome que vivre assisté. Et alors, il y a toujours une bonne cause, aussi bien pour les uns que pour les autres. Ça, c'est pour la cotorette. Passons maintenant aux ordonnances. Là, le problème se pose aussi. Alors, c'est sûr que pour faire une ordonnance de pénicilline ou pour faire une ordonnance de leucoplasme, on voit très peu la notion du pouvoir, on voit beaucoup plus la notion du soin. Pour donner une ordonnance d'un tranquillisant à un angoissé à la place de la psychothérapie, c'est déjà un peu de pouvoir. Et quand par exemple moi je refuse les somnifères à des jeunes adolescents qui me le demandent en leur disant à ton âge t'es un clodo, tu vas pas prendre des somnifères, il faut que tu fasses la psychothérapie, d'une part je joue là d'une base théorique, pour l'adolescent une psychothérapie vaut mieux qu'un médicament, j'essaye de jouer sur mon pouvoir charismatique sur lequel je reviendrai, parce que ces adolescents me voient comme un mec maousse, très puissant, chouette et rigolo, mais finalement, pour ne pas leur donner l'ordonnance, je profite de mon pouvoir bureaucratique, parce que sans ma signature, aucun pharmacien ne vendra des somnifères. La question c'est, il peut les voler toujours, c'est pour ça que vous faites l'air. Eh bien, mon vieux, pour pouvoir faire ça, il faut déjà un certain niveau de connaissances sociales que mes adolescents n'ont pas encore. Et ils n'osent pas tous aller chez un médecin. Ceux qui osent, déjà, je m'en occupe moins. Ah ben, jamais je n'ai dit ça. Pour ça, je profite de mon pouvoir pour ne pas leur dire. Un autre problème.
C'est une rétention d'informations.
Exactement. Ça fait partie de l'exercice du pouvoir. C'est évident que le pouvoir bureaucratique, c'est la force et c'est aussi l'information. Et quand je vous dis que je refuse cette signature, cette ordonnance, pour des raisons théoriques en profitant de mon charisme, mais finalement, grâce à mon pouvoir bureaucratique, il est si inclus ici la rétention d'informations. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de lui donner des conseils. Le même pouvoir va apparaître déjà dans une situation duelle. Faut-il, oui ou non, donner des tranquillisants, voire la méthadone, à un drogué lorsqu'il est en manque, et lorsqu'on sait qu'il ne demande ses tranquillisants que quand il est en manque, et qu'il s'en fout complètement quand il peut avoir sa canne, etc. Pour ces ordonnances, encore il y a le pouvoir bureaucratique très fort en institution. Quand j'ai prescrit des énormes doses de neuroleptiques, et que je charge les infirmiers qui dépendent de moi à surveiller la prise de ces médicaments neuroleptiques, il est un peu moins bureaucratique lorsque je prescris les mêmes neuroleptiques à un client de consultation externe. Là, il est un peu plus contractuel, mais lorsque j'ai la maman avec moi et lorsque je prescris ces neuroleptiques et que c'est la maman qui les donne, il devient bureaucratique entre la maman et moi par rapport à l'usager. La maman est donc là investie d'un pouvoir bureaucratique par un tiers qui est moi pour donner ses neuroleptiques au gosse, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. Et c'est toutes ces choses que les psychologues demandent. Il y a aussi les problèmes des certificats où notre pouvoir psy est très très grand. Il y a les certificats des assurances, il y a les certificats des victimes des guerres. J'ai fait moi-même 250 certificats qui n'étaient pas toujours faux d'ailleurs, pour des gens persécutés pendant la guerre. Et c'était vraiment mon pouvoir, donc j'étais investi bureaucratiquement, soit par les ministères des anciens combattants, soit par l'ambassade d'une puissance devenue amie, ici devant persécutrice. Et selon ce que j'écrivais, les gens avaient ou n'avaient pas de pension. C'est aussi les certificats d'arrêt de travail, et vous connaissez tous, de temps en temps, il y a des scandales qui éclatent, que les certificats d'arrêt de travail sont donnés au PIF d'une manière injuste, où il y a, là, ça commencera les problèmes d'abus du pouvoir. Donc vous voyez que le pouvoir bureaucratique des psys est assez important, aussi bien d'une manière macroscopique, comme je vous ai donné les deux exemples, qu'en manière moyenne dans les institutions et même dans les privés. Mais ne croyez pas, puisqu'on parle de choses psy, que les psychologues, eux, les pauvres, n'en ont aucun. Et les psychologues qui râlaient comme des poux, qui n'ont pas assez de pouvoir parce qu'ils voulaient mordre sur les gâteaux les pouvoirs des psychiatres, mais dès qu'il n'y a pas de psychiatre, ils s'investissent, la chose les investit d'un pouvoir. Et puis même s'il y a un psychiatre, les psychologues peuvent avoir du pouvoir lorsqu'ils savent s'en servir. Exemple, le pouvoir des expertises. Et vous savez très bien que par exemple dans la justice des mineurs, les psychologues actuellement ont occupé suffisamment de places pour qu'ils aient plus de pouvoir que des psychiatres. La raison est très simple, vous savez laquelle. Le ministère de la Justice est un ministère très pauvre. Une heure de psychiatre coûte beaucoup plus cher qu'une heure de psychologue. Eh bien, c'est normal que la justice préfère s'entourer quand même pour la... Surtout la justice des mineurs, qui est une justice mineure, préfère s'entourer des experts psychologues en gardant les experts psychiatres pour la justice criminelle, qui est quand même beaucoup plus noble, des assises, etc. Il y a quelques médecins psychiatres aussi qui sont dans des cas plus graves, ils font des expertises, il y avait le célèbre M. Hier, M. Roumajon. Alors donc, le psychologue, il a du pouvoir en faisant des expertises, il a du pouvoir en faisant des tests, et là, le pouvoir est énorme. C'est selon les résultats d'un test que le gosse peut aller dans telle ou telle filière. Et je me rappelle très bien, sans qu'il y ait question d'abus ici, que dans notre pays, dans les années 60, lorsque j'avais des psychologues comme élèves, je les enseignais comment il faut augmenter le taux, comment il faut augmenter le score des tests. Parce qu'effectivement, dans cette époque, excusez-moi, je vais enlever le couloir. À cette époque, la sécurité sociale refusait toute prise en charge lorsque les QI étaient inférieurs à 55. Ils étaient reconnus comme incurables et ils dépendaient uniquement d'aide médicale, ce qui était extrêmement honteux et douloureux pour les familles. Nous y avons mis fin, et c'est une des fiertés de ma vie d'avoir un tout petit peu collaboré pour mettre fin à cet état infâme. Mais avant qu'on y ait mis fin, je disais aux psychologues, et les psychologues ne m'attendaient pas pour le faire, parce qu'ils étaient gentils le plus souvent, et bien quand il y avait un gosse qui avait un QI autour de 55, on lui mettait 59, on lui mettait 60, et comme ça les gosses pouvaient être pris en charge par la sécurité sociale. Donc ici, un bon exercice du pouvoir pour l'usager et mauvais pour les finances de la République, c'était augmenter les tests. Quelques années après, je suis allé au Danemark, une visite professionnelle, et j'y ai vu avec stupéfaction que là-bas, le bon psychologue, celui, bon, le gentil psychologue, celui qui aime l'usager, c'est celui qui baisse les QI. Qu'est-ce que ça voulait dire? Moi, j'étais épaté, j'y comprenais rien, et puis j'ai compris qu'il y avait là-bas toute cette catégorie de la population avec des QI autour de 70. S'ils avaient plus de 70, ils étaient considérés comme des vagabonds, comme des bons à rien, relevé de la police. Quand ils avaient moins de 70, plouf, ils touchaient tout de suite une pension pour débilité mentale. Donc là, les bons psychologues, ils les foutaient du 68, du 67. Actuellement, en France, depuis la loi de 1975, depuis les cotorètes, nous nous sommes retrouvés dans la situation danoise, ce qui prouve combien mes étonnements d'autrefois étaient des étonnements des persans dans un pays cultivé. Alors donc, vous voyez que les psychologues, ils ont quand même quelques pouvoirs, même bureaucratiques, de par leur expertise et de par leur thèse. Passons maintenant, si vous voulez, après, sur le pouvoir théorique. Le pouvoir à base de théorie. Eh bien, c'est là que les choses deviennent peut-être un peu plus spécifiques, un peu plus spécifiques des psy. C'est que ce qui nous distingue un peu des énarques, des flics et des juges, ou encore pas tellement, à vrai dire, c'est que nous pensons que nos pouvoirs relèvent d'une certaine théorie scientifique. Les juges, c'est différent. Les juges, ils savent bien que leur pouvoir relève du droit. Mais ils ne disent pas que le droit n'est pas naturel. Le droit, c'est quelque chose écrit par les hommes, et les juges ont le pouvoir de commenter ce droit, de l'interpréter, mais leur pouvoir a une base théorique que le droit. Les élus et les administrateurs, leur pouvoir relève aussi d'un certain contrat apparent, la constitution, les décrets, tous les fatras administratifs que vous connaissez. Alors que nous autres psy, tout comme les médecins, nous estimons, ou plutôt d'une manière implicite, mais c'est bien d'y penser, que notre pouvoir relève de notre savoir. Et c'est là que la question commence à devenir amusante. Est-ce que le savoir donne le pouvoir? Moi, ça me casse un peu les pieds d'en parler, parce que quand j'étais prof à Vincennes pendant 8 ans, j'ai entendu l'accouplement, ou plutôt la copulation, de ces deux termes, pouvoir et savoir, en soprano, en mezzo voce, en basse, en orchestre, en solo, et c'est beau, mon vrai. Et cet accouplement m'est sorti un peu par les narines, j'en avais vraiment assez, mais ici, il faut bien que j'en parle. Alors, je m'excuse. Alors, je pense que il est implicitement admis par les masses travailleuses que le pouvoir doit être proportionnel au savoir. Ce qui est un peu le cas des juges. On dit le bon juge, c'est celui qui connaît par cœur son code Napoléon. Le juge affreux, il ne connaît rien aux lois, il condamne les gens à mort. Donc on dit que celui-là exerce son pouvoir à bon escient parce qu'il connaît bien les choses. L'autre, c'est un affreux, il fait déjà un abus de pouvoir. Eh bien, il n'y a pas de doute que les médecins, surtout depuis quelques 30 ans, leur pouvoir est de plus en plus, encore moins qu'ils ne le disent, à base d'un savoir solide. Laisse-toi encore dehors. Quand vous avez les sciences exactes, quand vous êtes un bon physicien, quand vous connaissez bien votre physique théorique et bien votre technologie, eh bien, si vous faites une fusée, eh bien, cette fusée, bien sûr, Ariane, elle ne pète qu'une fois, elle pète une fois sur deux, mais au moins une fois sur deux, elle fonce. Donc, ici, le pouvoir d'un ingénieur ou d'un savant est en rapport direct avec son savoir. Mais en sciences humaines, la chose est... Ah, qu'on a un savoir pour bien exercer le pouvoir. Ça, c'était donc vrai pour M. Barre. Ici, avec M. Mitran, c'est un peu différent. Le pouvoir, on ne le donne plus aux économistes, on le donne plutôt à des sociologues. Eh bien, les sociologues, c'est des gens qui étudient bien les choses de la société. Une fois, quand on les met au gouvernement, quand on leur donne le pouvoir, eh bien, mon Dieu, je ne veux pas faire d'allusion, ils se débrouillent comme ils peuvent. Eh bien, c'est sûr que dans ce qu'on appelle les sciences humaines, il y a les mêmes titres, les mêmes examens, les mêmes langages que dans les sciences de la vie et de la nature, alors que notre savoir est beaucoup plus contesté, beaucoup plus contestable et beaucoup plus petit. Et je crois que c'est ça, parce que je laisse tomber les économistes, les sociologues, restons bien chez nous, et il n'y a pas de doute que ce qui choque les gens. Pourquoi on parle beaucoup plus de pouvoir médical chez les psys que chez les autres? C'est parce que quand un médecin somaticien prescrit la pénicilline pour une pneumonie, quand un chirurgien décide s'il faut réduire une fracture par voie sanglante ou par voie non sanglante, eh bien, il a un savoir assez solide là-dessus. Un savoir qui est souvent plus empirique que théorique, mais qui est solide. Alors que chez nous, on a souvent un savoir empirique. Il ne faut pas non plus scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et c'est sûr que, quand avec nos yeux d'aigle, nous jugeons qu'un tel le pronostic est mauvais, un tel le pronostic est bon, hélas, nous avons souvent raison. Heureusement, nous avons souvent tort. Je pense à un de mes patrons qui, quand il voyait une jeune fille de 12 ans assez bien habillée d'une manière un petit peu criante, sortant d'un pauvre milieu et assez pauvre à l'école, mais jolie, il disait « Elle est jolie, bête et pauvre, elle sera putain. » Là, il s'est basé sur un certain corps de savoir qui était que les gens pauvres, jolis et travaillant mal à l'école deviennent des prostituées. Il se servait de ce savoir pour un pouvoir, parce que la fille en question n'avait droit ni à la psychothérapie, ni aux médicaments. On l'envoyait d'emblée chez le juge.
Même pas la
médecine. Même pas la médecine. Je pense qu'il usait d'une manière, il mésusait un peu de son pouvoir. Mais il n'y avait pas que ça. Je pense que, autant que dans les champs des sciences de la vie, le savoir théorique est relativement solide, disons, en tout cas plus ou moins parallèle au pouvoir qu'il donne aux gens, eh bien, dans notre affaire psy, le pouvoir, le savoir, il est sinon pas solide, au moins très contesté et n'entraînant pas ce qu'on pourrait dire le consensus de la communauté scientifique. Prenons tout de suite des choses très claires. Prenons le traitement des psychoses. Autant vous donner un exemple que je connais bien parce que je sors là d'une réunion très, très orageuse à ce sujet. Il y a eu récemment un petit congrès à Monaco où il était question des apports de la psychanalyse au traitement des psychoses. Pour tous les gens de ce congrès, le caractère psychogénétique est les bases psychanalytiques de la compréhension et par conséquent du traitement des psychoses infantiles apparaissait comme un postulat, comme une donnée de fait, comme quelque chose sur lequel on va broder ensuite les différentes méthodes thérapeutiques, la méthode malérienne, la méthode de Madame Fustin, la méthode manonique, la méthode bethléémique, peu importe. Là-dessus, il y avait encore des sous-écoles, mais la musicienne, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, avec ses disharmonies. Mais tout le monde était d'accord qu'on ne peut rien comprendre aux psychoses infantiles si on ne les regarde pas avec les yeux d'un psychanalyste. Or, là, je suis en train de préparer un autre congrès qui aura lieu en décembre, où la majorité des gens qui travaillent pour préparer ce congrès ont une vision absolument inverse et avec une conviction tout aussi forte, c'est que les psychoses infantiles relèvent sûrement des problèmes biologiques, biochimiques, biologiques, génétique ou acquise, peu importe, que le vrai traitement des psychoses viendra le jour où on aura une bonne pharmacologie, et qu'en attendant, ce qu'il faut faire, c'est non pas la psychothérapie, mais des mesures éducatives, parce que c'est des enfants comme les autres, donc il faut les éduquer, et puis que l'attitude et que la psychanalyse n'a vraiment rien à dire, et que son seul but, c'est de culpabiliser les parents. Eh bien, vous voyez donc un seul champ de vision profondément divergentes, chacune de ces visions donnant un pouvoir quasiment totalitaire dans une institution. Quand vous avez une institution gouvernée par les premiers, par les gens comme ceux que j'ai vus hier, eh bien dans cette institution, tous les psychotiques auront de grosses doses de médicaments pour qu'ils se calment, on leur fera soit une éducation plus ou moins adéquate, et dans les cas les plus extrêmes, on leur fera de la behavior therapy, c'est-à-dire on va leur taper sur les doigts quand ils vont faire des choses désagréables, et leur donner des bonbons ou des jetons quand ils font des choses qui plaisent aux gens. J'en connais même qui, au nom de cette théorie, qui paraît qu'ils l'ont arrêté, mais je ne suis pas sûr, jettent les enfants à l'eau pour pouvoir les sauver ensuite, pour développer un attachement affectif à base des théories de stimulation. Des stimulus et des réponses. Authentique, il y avait un film canadien que j'ai vu là-dessus. À l'opposé, certaines théories psychanalytiques, lorsqu'elles gouvernent une institution, elles peuvent donner, aussi je prends des choix extrêmes, mais authentiques aussi, des cas comme celui-là que je livre à votre réflexion, un enfant psychotique qui aime un peu fouiller dans les fouillé dans des boîtes à merde, dans des boîtes à ordures, eh bien on déclare psychanalytiquement que tel est son désir, eh bien on l'enferme pour la journée dans une boîte à ordures et on verse sur lui lentement des ordures et des immondices. Et on ne sait pas si on se relève ici plus à Lacan, plus à Boris Vian, mais en tout cas voilà ce qu'on fait. Dans une autre maison tout aussi psychanalytique, deux enfants plus ou moins grabataires, dont un a une diarrhée aiguë, on les met tête bêche dans le même lit en disant « S'il a vraiment marre de la merde, il se lèvera et il marchera. » C'est-à-dire une certaine négation du biologique, une certaine hypostasie du psychologique de la volonté de l'autonomie, ça peut mener à des choses assez amusantes. Donc, dans notre chose psy, les champs théoriques sont beaucoup moins nets qu'ailleurs. Certes, vous allez me dire, vous racontez des balivernes, dans les autres sciences, c'est pas mieux que chez nous. C'est vrai, c'est pas aussi beau qu'on croit de loin. Et c'est sûr que depuis que j'ai lu attentivement un journal qui s'appelle La Recherche, je me dis que dans les autres sciences, même les plus physiques du monde, le côté théorique n'est pas si net qu'on le croit de loin. Que par exemple, prenons une science aussi abstraite que l'astrophysique, tous ceux qui sont pour la théorie du Big Bang, ils ont une petite connotation avec le bon Dieu qui a créé le monde, et ceux qui sont les plus matérialisme dialectique ou non, ils cherchent le pouls dans la tête de la théorie du Big Bang, parce que le mot même de la création les hérisse. Et le mot d'une... Pour la biologie, vous connaissez très bien les batailles enflammées entre les néo-darwinistes, les néo-lamarckiens, les évolutionnistes, sans parler des gens comme Wilson, les sociobiologistes. Bref, c'est sûr que chaque fois que nous regardons de près, et il y a toute une branche de gens très amusants qu'on appelle les sociologues des sciences ou les psychologues des sciences, quand on cherche ce qui se passe dans la tête des scientifiques avant qu'ils sortent une belle théorie, eh bien on trouve chez lui, comme chez vous, comme chez moi, un tas de choses obscures, un tas de présupposés, un tas de problèmes éthiques, moraux, religieux, métaphysiques. Mais n'empêche que dans les autres caractères, dans les autres disciplines, tout ça c'est plus ou moins maîtrisé, plus ou moins compensé par les règles de la scientificité, les règles qui étaient émises d'une manière la plus rigoureuse et la plus révolutionniste par Popper, c'est-à-dire ne scientifique que ce qui est réfutable, l'expérience, vérification, communication, etc. Chez nous, dans les psys, tout ça, ça n'existe pas. Les règles popperiennes ne marchent absolument pas dans la psychanalyse, les évidences du psychanalyste ne sont pas évidentes en dehors du champ psychanalytique. Chez nous, ça règne pour ça, c'est le règne de l'analogie, le règne de l'intuition, le règne d'un raisonnement hypothétique permanent, etc. Et puis surtout, pas d'expérience de réfutabilité. Donc, c'est sûr que chez nous, ce qui est extrêmement douloureux, et c'est pas par hasard, je pense, que Claude Weil a eu l'idée de faire consacrer toute une année à ce sujet des psy et du pouvoir, c'est que chez nous, on sent d'une manière très blessante et très douloureuse que nous avons peut-être plus de pouvoir que de savoir. Et je crois que cette humilité est très importante à obtenir et il est important d'y arriver. Ça, c'est donc les savoirs. Alors, on pourrait dire un plus, un peu, mais je crois que ça n'a pas sens d'en parler, les avantages que donne au nom de l'usager telle ou telle théorie. Mais non, je vous envoie plutôt à ce que j'avais écrit avant. Pas la peine de répéter le même truc tout le temps. Bien. Alors, ce pouvoir théorique, c'est donc un pouvoir qui est basé sur un savoir réel, mais il faut le distinguer d'un pouvoir qui se rationalise par un savoir supposé. Eh bien, ceci me permet de passer à la troisième catégorie du pouvoir, qui est donc le pouvoir que j'appellerais charismatique. Alors là, il faut que je fasse un tout petit peu de psychanalyse exhibitionniste devant vous, d'autopsychanalyse, et que je vous dise que depuis 15 jours que je travaille là sur ce sujet dans ma tête, je me suis aperçu que dans mon esprit, il y avait tout le temps une opposition farouche entre un mauvais objet qui est le pouvoir bureaucratique et un bon objet qui est le pouvoir charismatique. Le pouvoir charismatique, d'abord un mot sur la définition, le pouvoir charismatique, c'est celui qui est lié au supposé savoir. Cette fois-ci, ce n'est plus au savoir réel, mais au savoir que les autres nous imputent. C'est celui qui est dû à notre rayonnement, c'est celui qui est dû à l'influence infraverbale, extraverbale, verbale que nous avons sur les autres. Eh bien, c'est sûr que chaque fois, et d'ailleurs ça se voit très bien dans mon petit topo que je vous ai fait il y a 3 mois dans ces quelques lignes, le pouvoir bureaucratique c'est du caca, et le pouvoir charismatique c'est du bon. Et puis, quand je me suis trouvé plus devant la feuille de papier blanche, quand je me suis posé des questions, qu'est-ce que je veux vous raconter aujourd'hui, je me suis dit, mais dis donc, le pouvoir charismatique et bureaucratique, tu dis que c'est mauvais et bureaucratique parce que tu ne l'as jamais eu, et tu ne l'as eu que trop tard et pas assez, alors que le pouvoir charismatique, tu dis qu'il est bon parce que tu l'as eu très tôt et en grande quantité. Et alors, c'est évident que le pouvoir que j'ai moi, il est toujours bon, que le pouvoir comme les autres, il est toujours contestable. Et c'est sûr qu'on ne trouve les abus du pouvoir que chez les autres et pas chez soi. Donc le pouvoir charismatique, ça donne des plaisirs, ça donne de la satisfaction. Le pouvoir charismatique, c'est pour un enseignant voir que les élèves gobent tout ce qu'on lui dit. Le pouvoir charismatique, c'est de voir son nom cité maintes et maintes fois et dans le bon sens dans des articles des autres. Le pouvoir charismatique, c'est de voir que les autres agissent comme vous aurez voulu qu'ils agissent parce qu'ils vous ont entendu parler. Ça donne cette satisfaction extraordinaire en tant qu'enseignant. Le pouvoir charismatique, il existe là, en ce qui concerne les psys, aussi bien dans l'institution que dans la réalité, que dans une convention duelle. Le pouvoir charismatique dans une institution, c'est que tout le monde croit que ce qu'on dit c'est bon, que tout le monde écoute sans trop contester ce que l'on dit, que les familles, les malades, quand le grand docteur vient, ben, on l'obéit. Un qui a décrit merveilleusement le pouvoir charismatique, mais pas chez un psy, mais chez un médecin généraliste, c'est Proust dans un volume, je ne me rappelle plus quel volume c'est dans une scène qui s'appelle « La mort de la grand-mère ». Je crois que c'est dans Franck, non? Je ne me rappelle pas. Bon. Eh bien, il raconte que la grand-mère va très mal et qu'elle doit mourir et qu'elle est en pré-agonie, etc. Et qu'on a appelé le médecin de famille, le petit cousin, l'autre médecin, tout, c'est de la famille de Proust, c'était très riche. Et puis il dit, avec son air de pince à rire, enfin, on décide d'appeler Monsieur Dieu la Foi. Alors Monsieur Dieu la Foi vient, c'était le plus grand patron de l'époque. Il ausculte soigneusement la grand-mère, et puis on savait que appeler Monsieur Dieu la Foi voulait dire avoir la permission de mourir. Ça voulait dire que maintenant c'est plus la faute à personne que la grand-mère mourra, ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire pour la sauver, et Monsieur Dieu la Foi, avec une gentillesse extraordinaire, et une douceur et une délicatesse, nous a expliqué que le cas de la grand-mère est perdu. Tout le monde était tellement soulagé, tout le monde était tellement ému par la gentillesse qui rayonnait de Monsieur Dieu la Foi, que nous ne nous sommes même pas aperçus des 20 louis d'or qu'il a pris négligemment en sortant. Alors donc, et puis bien entendu, la grand-mère meurt 2 jours après la visite de Monsieur Dieu la Foi, mais la famille est apaisée. Ça, c'est donc pas les pouvoirs bureaucratiques, parce que c'est pas Dieu la Foi qui a tué les braves hommes. C'est pas non plus le pouvoir théorique, parce qu'en fait, les autres toubibs en savaient autant que Dieu la Foi que la grand-mère va mourir dans 2 jours. C'est le pouvoir charismatique que Monsieur Dieu la Foi avait, parce que c'était Monsieur Dieu la Foi. Quand j'étais encore jeune étudiant en médecine, et Claude Veil était pareil, nous avons encore connu 1 ou 2 patrons comme ça qui avaient ce pouvoir charismatique. Leur nom était Harvier en médecine générale, Delay en psychiatrie. Maintenant, c'est une catégorie qui se perd parce que notre société actuelle, dans les sciences de la vie, préfère des rationalisations théoriques et refuse plutôt le charisme pur. Mais ils le disent toujours. Et quand vous voyez les photos de Bernal, comment?
Jean Bernard,
c'est du charisme. C'est vrai, il connaît que dalle à rien. C'est vrai. Je te remercie, c'était très beau, même ça. Il a fait, M. Jean Bernard a fait au 20e congrès, au 20e anniversaire de l'INSERM, il a fait un topo qui était extrêmement beau, extrêmement élevé. Tout le monde était ému. Et tout le monde était tellement ému, il a trouvé son topo tellement beau qu'il y avait au moins 4 inexactitudes flagrantes là-dedans, pour ne pas dire des bêtises, et personne ne voulait s'en apercevoir. Alors les mêmes bêtises, s'ils avaient été dites par un étudiant en 6e année de médecine, il n'aurait pas eu son il n'aurait pas eu son examen.
Je croyais naïvement qu'il fallait quelque chose, et je crois toujours. Mais je trouve que depuis 10 ans, effectivement, il est devenu une délire verbal,
et ça,
dans les médias, qui fait qu'il est impossible de rendre les présentations personnelles.
Non, mais c'est normal. Mais je pense que...
À une époque, il a eu, je crois, un pouvoir théorique et un pouvoir
personnel. Je suis 100% d'accord avec vous.
Maintenant, je suis tout à fait...
Je suis 100% d'accord avec vous. J'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître Jean Bernard quand il était assistant et moi externe. Moi, j'avais une admiration folle pour lui en tant qu'homme de savoir théorique.
Et la remarque de
M. Veil, elle est vraie aujourd'hui, elle était fausse il y a 10 ans. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, le pouvoir charismatique, c'est souvent l'aboutissement d'un pouvoir théorique exercé longuement avec les principes de peut-être, etc. Eh bien, le pouvoir charismatique, c'est très important en ce qui concerne la psychanalyse. Parce que c'est, par exemple, dans la clientèle privée, l'effet que nous pouvons influencer tout en restant neutre et bienveillant. Une personne qui s'est confiée à nous sous les modes contractuels, là, il n'y a plus aucune bureaucratie apparente, le type peut nous quitter comme il veut, et là, tout est charismatique. Je dis que tout est charismatique parce que notre savoir, il est vraiment très contestable. Notre savoir-faire, il est déjà beaucoup moins contestable parce que tout le monde ne sait pas aussi bien psychothérapiser l'un que l'autre. Ils ne sont pas égaux, les psychanalystes. Bien que certains voulaient dire qu'ils sont égaux en disant que les seuls qui travaillent, c'est l'analysant et qu'à la limite, la personnalité d'analyste ne sert à rien. Mais c'était tellement faux qu'il n'y a que... ni quoi que ceux qui veulent bien y croire. Donc, ce pouvoir de savoir-faire devient à la longue charismatique. Eh bien, ce pouvoir charismatique, c'est la même chose. Il peut être utilisé à bon escient et à mauvais escient. Et là où je me suis aperçu que je voulais vous mystifier en mettant le pouvoir charismatique comme ça, comme le bon objet permanent, et le pouvoir bureaucratique comme le mauvais objet permanent, eh bien, il n'y a pas doute que le patriarche, il a un pouvoir charismatique, que Messager a un pouvoir charismatique, que tous les gourous, tous les sorciers ont un pouvoir charismatique. Et je me suis dit que finalement, si j'aime tellement le pouvoir charismatique, c'est que malgré tous les diplômes dont je suis bardé, je me sens dans mon fort intérieur marabout, sorcier, et j'espère terminer mes jours comme sorcier et comme marabout. Alors... Mais qu'une fois mon petit cas personnel mis de côté, le pouvoir charismatique, tout comme le pouvoir bureaucratique et tout comme le pouvoir théorique, peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Alors ce qui nous permet maintenant de passer au dernier petit chapitre de mon petit topo, qui est l'abus du pouvoir, est-il à bon escient, est-il à mauvais escient. Et bien tout de suite encore, puisque Veil vous a dit que je suis provocateur, une question qui n'est pas facile à juger et que plus on y réfléchit, plus ça paraît compliqué et plus l'éthique montre les griffes en montrant qu'elle est loin de la biologie. Mon maître et ami Claude Bonafé, pas Claude, Lucien Mulu Bonafé, il nous a toujours dit ce qui est bon, ce qui est au service des usagers, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas au service des usagers. Pendant des années, tel un perroquet, je répétais ce que disait Bonafé, et je trouvais cette formule géniale, merveilleuse, révolution psychiatrique, communiste, socialiste, progressiste, mai 68, tout ce qu'on veut. Et puis après, je me suis dit, mais il y a des cas quand même où la chose n'est pas simple, qui est usagé. Ça m'est apparu très nettement lorsque j'ai parlé un jour, gratuitement comme ici, devant l'association des parents des malades psychotiques. Et c'est là que j'ai vu, il y a des drames. Moi, j'ai toujours été éduqué, et puis j'étais donc pas mieux que les autres, sauf pour les débiles, que les parents, c'est tous des affreux, et que l'usager qui m'intéresse, c'est les gosses, l'adolescent et tout. J'ai même écrit un petit papier qui est paru dans un mauvais canard, là, du Pompidou, là, du Centre Pompidou, qui s'appelait « Comment rendre votre enfant un délinquant ?» et qui était un pamphlet féroce et sanglant contre les bons petits parents petits bourgeois comme vous et moi. Donc, pour moi, l'usager, c'était les gosses, et l'affreux, c'était les parents. Et puis, je me suis trouvé un jour devant 400 personnes qui étaient tous des affreux parents, et au lieu de les voir affreux, je les ai vus pauvres, malheureux, déboussolés, peinés, chiants, certes, mais finalement, moi aussi, j'ai vieilli, donc peut-être pas plus chiant que moi. Et puis, je me suis dit, il faut peut-être réfléchir qui est l'usager, et quand on défend tout le temps les clients contre la famille, il faut peut-être parfois penser qu'il y a des choses qui sont bonnes pour la famille. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit là-dessus mon ami Cooper, qui a parlé ici, si j'ai bien vu. Cooper qui était celui qui massacrait les familles comme André Gide. Family Life, vous connaissez tous, c'est quand même, il y avait Cooper derrière. Il a vieilli de 15 ans, je ne sais pas s'il a toujours un discours aussi anti-famille, ou s'il a mis un peu aussi, s'il a changé. Comme moi, parce que moi j'étais en plein dans les discours de Cooper avec qui je suis très lié.
Mais lui non plus n'a pas vieilli.
Comment ?
Il n'a pas vieilli.
Il n'a pas vieilli. Non, non, pas mais il tape toujours sur les familles comme avant. Il s'est calmé. Il les voit plus tous comme fascistes et comme. Donc il a vieilli quand même, parce qu'en 60, pour Cooper, la famille c'était le rouage du pouvoir fasciste contre l'individu. Alors c'est sûr que...
Querelle de vocabulaire, vieillit ou mûrit?
Oh, ça c'est une question de charisme. Comment... Alors donc, il n'est pas aussi évident que cet usager, il faut encore savoir quel est l'usager. Et de plus en plus, dans ma pauvre pratique, je vois que je suis pris dans des conflits d'usagers et je me sers de mon pouvoir, à la fois bureaucratique, théorique et charismatique, pour essayer de concilier. Eh bien, un qui a très bien compris ces problèmes des usagers, c'était un écrivain français qui s'appelait Jean de La Fontaine, quand il a dit « on ne peut pas contenter tout le monde de son père ». Eh bien, c'est sûr que nous, dans nos problèmes de pouvoir, lorsque nous sommes pleins de bonne volonté pour se servir de notre pouvoir uniquement pour l'usager, eh bien, nous ne sommes pas toujours sûrs de le faire à bon escient. Et c'est sûr que là, différentes théories nous aident. C'est sûr que la psychiatrie classique, telle que je l'ai connue pour au temps de ma jeunesse, elle était tout entière pour les parents et tout entière contre les malades. Ensuite, la réaction, c'était le mannonisme-béthélénisme, qui se croyait tout entier pour les malades, fut-il arriéré et psychotique, et tout entière contre les parents, fut-il les gens les plus braves du monde. Maintenant, on cherche aussi bien les psychanalystes d'ailleurs que les non-psychanalystes, cherche à trouver une espèce de modus vivendi où on peut se dire qu'on soigne aussi bien les uns que les autres. Vous avez pour ça les thérapies familiales, les thérapies systémiques. Vous avez tout un soubassement théorique qui est en train de se construire pour essayer de contenter tout le monde et son père, mais ce n'est pas facile du tout. À côté des usagers, la société, elle aussi, a des droits. Et c'est sûr que lorsqu'en période de pénurie, vous donnez un certificat de pension pour un simulateur, vous faites une bonne action pour l'usager qui est là devant vous, le pauvre mec, parce que vous vous dites, pour simuler la folie, il faut être quand même un peu fou, un peu tordu, mais vous faites sûrement une mauvaise action envers la société qui vous paye, et qui est une société qui est de plus en plus une société de disette, et qui n'est plus la société d'abondance que nous avons connue. Donc, la communauté aussi a peut-être le droit. De la même manière, quand j'étais jeune encore, j'espérais qu'un personnel heureux rende les enfants heureux dans une institution, et je pesais tout pour moi, avec le peu de pouvoir que j'avais, pour rendre le personnel heureux, en espérant ainsi rendre les enfants arriérés heureux. je me suis aperçu que je me suis planté, sinon à 100%, au moins à 60%, que le personnel était très souvent heureux à tricoter en faisant causette. À l'époque, on ne faisait pas de synthèse psychologique, alors c'était la causette autour du tricot, et en laissant les arriérés patauger dans leur crotte. Ce qui était refait ensuite dans les institutions psychanalytiques, où la causette autour du tricot était remplacée par la synthèse, alors que du point de vue des enfants arriérés, c'était toujours la même crotte. Donc, il n'est pas vrai, hélas, que le bonheur des uns fait le bonheur des autres, et là aussi, le pouvoir, ça implique le choix. Alors, pour l'abus du pouvoir, l'abus du pouvoir, c'est encore ici tous ceux qui, n'est pas moi. C'est les autres qui abusent du pouvoir, moi je crois que j'en ai jamais abusé. Je pense que ceux qui m'ont vu agir pourront sûrement très bien vous décrire là où j'ai abusé du pouvoir, mais je ne m'en suis pas aperçu. Et je pense qu'en général, les gens ne s'aperçoivent pas quand ils abusent de leur pouvoir. Et les psys sont ici un peu comme les autres. Je vois que vous grimacez, madame, vous pensez à Tosca certainement, ou... Les messieurs qui usent de son pouvoir pour coucher avec la belle Tosca pour sauver la vie de son amant, eh bien, il sait qu'il abuse de son pouvoir. D'ailleurs, il est tué à la fin, justice est faite. Mais il y a donc des affreux qui abusent de leur pouvoir ouvertement en les sachant, en y trouvant un plaisir que nous appelons sadique ou pervers. Mais je pense quand même que la grosse majorité des gens, même lorsqu'ils abusent de leur pouvoir, ils trouvent toujours une rationalisation quelconque. Alors, quelques exemples, je terminerai là-dessus. Alors, l'abus du pouvoir, celui qui, à moi, paraît le plus répugnant, le plus affreux, le plus ignoble, et je pense qu'ici, dans la salle, personne ne me contredira, ce sont les psys qui participent aux tortures. Et il y en a des comme ça en Uruguay, il y en a au Chili, il paraît qu'il y en a aussi chez nos amis soviétiques, mais encore d'une manière très différente, parce que ce n'est pas les tortures, mais c'est un usage seulement psychiatrique. Il n'y a pas doute que là aussi, pour ceux qui ne savent pas, je peux vous raconter combien ici, la théorie importe peu et c'est la morale qui compte. Parce qu'au Chili, on connaît un psychologue behavioriste qui se servait très bien, qui donnait des programmes excellents à des tortionnaires pour se servir des carottes et des bâtons pour essayer de briser la résistance psychique de certains prisonniers. Mais le même psychologue, à moins que ce fût son petit collègue, il ne crachait pas non plus sur l'apport de la psychanalyse. Et par exemple, en étudiant de très près la vie un peu intime de tel ou tel prisonnier, il s'était aperçu qu'il était extrêmement attaché à son père et il a réussi à faire des scénarios absolument affreux en disant que si tu fais, il dit pas ce qu'il faut, c'est ton père qu'on va massacrer, etc. Bref, il y avait pas mal de gens, même la psychanalyse a pu être mise, c'était rare, il faut dire, beaucoup plus rare que le behaviorisme, mais il faut, même si c'était fait une fois, ça mérite d'être dit, quelle que soit la théorie, on peut la mettre, la psychologie, au service des tortures. Et je passe sur la schizophrénie politique et sur l'utilisation des neuroleptiques en Union soviétique. Encore que j'ai parlé avec des psychiatres soviétiques, ils n'ont pas la même vision de choses que nous. Et ils voient ça comme une humanisation. Ils disent, mais au temps du papa Staline, ces gens-là, ils auraient tous eu une balle dans la nuque. Avec nous, ils n'ont que des neuroleptiques, c'est quand même beaucoup plus agréable et ils peuvent toujours en sortir un jour. Alors vous voyez, ce qui nous paraît affreux, ça paraît peut-être pas affreux à ceux qui le font. Alors ça, c'est donc là-dessus, je pense que vous serez tous d'accord que participer aux tortures, participer, mettre sciemment notre savoir et notre savoir-faire au service de la destruction de la personnalité et de ce service est un abus du pouvoir manifeste et même criminel. Ça devient plus discutable lorsque c'est fait au nom du bien du client. Alors là, je vous donne deux exemples et sans prendre position. Un, c'est un psychiatre que j'ai bien connu et que Claude Reil a aussi connu, qui faisait manger ses vomissements, leurs vomissements aux anorexies mentales. Et bien moi, j'ai toujours trouvé ça répugnant, ignoble, infâme. Pourquoi? Parce que j'aime les anorexies mentales. Je trouve que c'est inhumain et dégradant de faire manger à quelqu'un ses vomissements. Or, ce noble praticien disait, tous les moyens sont bons faut que cette jeune fille prenne du poids. Vous voyez, la fin justifie les moyens. Un autre exemple, toujours dans le même domaine des anorexies mentales, qui est mon domaine préféré, cette fois-ci, on ne leur fait pas manger des vomissements, on ne va pas jusque-là, mais on les enferme à triple tour, on obture les vitres de noir, on les met dans de véritables prisons et on leur établit des programmes en disant à tel ou tel poids, tu auras droit au téléphone, à tel ou tel poids, tu auras droit à une visite, à tel ou tel poids, tu auras droit à des visites et tu seras libéré à tel et tel poids. D'autres le font d'une manière encore plus gentille en signant ce qu'on appelle des contrats léonins avec une jeune fille lorsqu'elle entre dans les services. Bref, c'est sûr que pour soigner les anorexies mentales, nous nous servons souvent, dès que nous sommes dans une institution, de notre pouvoir bureaucratique et pas seulement charismatique et théorique. Est-ce que c'est de l'abus du pouvoir ou non? Ici, la finalité est manifestement propre et bienveillante. Il s'agit de sauver cette jeune fille. Et le cas limite dans l'autre sens par rapport au vomissement, c'est la nana qui pèse 24 kilos, qu'on est sûr qu'elle va mourir dans les semaines à venir, on lui fait une perfusion contre son gré. Sachant qu'une fois quand elle reprendra 30 kilos, on pourra de nouveau discuter avec elle, faire la psychothérapie, en tout cas, tout n'est pas perdu. De la même manière, faut-il interner ou non, provisoirement, quelqu'un qui est en train de se suicider, a-t-on droit de le prendre et de l'empêcher de se suicider? C'est-à-dire, a-t-on droit de servir de son pouvoir que nous donne notre force physique pour empêcher quelqu'un de se suicider? Je vous signale qu'à Vincennes, lorsque j'étais enseignant, j'avais des gens qui me contestaient très violemment, qui m'ont traité de fasciste, ça m'a fait un peu drôle, mais il faut entendre tout dans la vie, qui m'ont même traité de fasciste parce que je trouvais que les médecins doivent se donner comme but la guérison d'une anorexie mentale. Et on m'a opposé là le non-pouvoir total en disant si l'anorexie mentale veut mourir, il faut la laisser mourir et tout ce qui l'empêche de mourir, que ce soit la psychothérapie, que ce soit la contention, est un abus de pouvoir. Donc vous voyez que les abus du pouvoir, ça peut se trouver partout. Alors là, quoi, je terminerai. Bon, j'ai pratiquement tout dit. Alors, si, il y a encore les électrochocs. Bon, les électrochocs. Donner les électrochocs, comme on les a vus dans les films, mis de coucou, c'est manifestement un abus de pouvoir. Donner des électrochocs à un mélancolique délirant, suicidaire, chez qui a échoué 15 jours de perfusion d'étoprofène, alors qu'on le remet très bien en marche avec 3 électrochocs, ici l'abus du pouvoir est beaucoup plus discutable. Je crois que je vous ai tout dit que j'ai promis dans mon petit topo. Le rôle des différentes théories, j'ai un peu saboté. Finalité du pouvoir, les intérêts du monde, c'est à peu près. Ok, nous avons 35 000 loin d'être la même. Je pense, avant